les anglicans se déchirent en ce moment, en particulier sur la question de l'homosexualité. Oui, j'ai envie de dire, ça c'est tout à fait caractéristique de l'anglicanisme, c'est qu'en fait, au fond, ces trois pôles, quand on les voit dans leurs expressions les plus pures, ça n'arrive jamais, ou presque jamais, ils sont en fait incompatibles les uns avec les autres. Et c'est bien à la fois la richesse et la douleur de l'anglicanisme. La richesse parce que le rêve anglican, c'est le rêve de rassembler. Et donc, il y a une immense répugnance à exclure de l'Église ceux qui ne s'en excluraient pas explicitement eux-mêmes. Donc, voilà, on a des pôles très différents, a priori, comme ça, incompatibles, si vous pensez aux évangéliques qui revendiquent une identité protestante extrêmement marquée, et puis les anglo-catholiques qui vont vous dire « moi, je ne suis pas protestant, je suis catholique ». Bon, on voit déjà là à quel point le pluralisme peut mener à des contradictions extrêmement douloureuses. On est dans une configuration qui mène nécessairement à des conflits. C'est pas nouveau, hein, les conflits actuels, bon, ils sont particulièrement douloureux, mais je ne suis pas sûre que les conflits du passé, et ils ont été extrêmement nombreux, aient été moins douloureux pour les personnes qui les vivaient dans leur contexte, à leur époque.
On parle de schisme assez régulièrement au sein de l'Église anglicane. Est-ce que ça, vous pensez que c'est un risque aujourd'hui ?
Le risque est réel. Il y a eu des schismes dans l'histoire anglicane, en particulier, il y en a un qui était le schisme méthodiste. En même temps, c'est un risque qu'il faut quand même relativiser. De quel schisme parlerait-on si on en avait un ? Vu la configuration actuelle, on est dans le cadre de tensions, pas seulement théologiques, mais aussi des tensions culturelles. On a en gros les pays du Sud, derrière le Nigeria et l'Ouganda, et puis les pays du Nord, ou ceux qu'on assimile aux pays du Nord, genre l'Australie. Bon. Là, il me semble effectivement qu'il y a un vrai risque, qui est magnifié par le fait que les provinces africaines ne vivent peut-être pas en elles-mêmes le même pluralisme qu'ailleurs. Et donc, c'est sans doute plus difficile pour elles d'arriver à réconcilier les contradictions de la communion anglicane parce qu'elles les voient beaucoup moins en elles-mêmes. En Angleterre, si vous voulez, on est habitué à être assis régulièrement à côté de quelqu'un qui croit des choses complètement différentes de moi. Et puis, on est habitué à être en conversation permanente et à essayer de se reconnaître comme frère, au-delà des différences. Je connais mal l'anglicanisme africain, mais mon impression, c'est que certaines provinces d'Afrique, c'est beaucoup moins le cas. S'accommoder de la contradiction, quelque chose auquel on n'est pas habitué dans la vie de la province locale. Donc, très difficile à négocier après international quand en plus vous avez des différences culturelles quand même assez énormes. Ce que veut dire l'homosexualité aux États-Unis n'est pas du tout la même chose que ça veut dire en Ouganda. Donc si on revient à cette idée de schisme, vous voyez, bon, un schisme, mais il aurait quelle forme ce schisme? Si l'Ouganda et le Nigeria disent, bon, on s'en va, on veut une autre communion anglicane que celle-là, ils vont aller où? L'Église d'Angleterre ne va pas les suivre. C'est quelque chose qui va quand même contre les racines identitaires de l'anglicanisme. Être anglican, c'est entre autres être en communion avec le siège de Canterbury.
Pour revenir à la question de l'ordination des femmes, en Angleterre, on a l'impression qu'elle a provoqué de nombreuses défections et plusieurs groupes ont d'ailleurs demandé à être rattachés à l'Église catholique, ce qu'a permis Benoît XVI. Comment est-ce qu'a été perçue la constitution apostolique Anglicanorum Coetibus ?
Il y a une chose déjà, c'est que Rome a présenté une réponse aux demandes de la communion anglicane traditionnelle, qui s'est séparée de la communion anglicane dans le passé, qui est de tendance très anglo-catholique, qui était un peu en déshérence, disons, ecclésiastique, et qui avait demandé depuis plusieurs années à Rome à ce qu'un accommodement soit trouvé pour qu'il rejoindre la communion de l'Église romaine. C'est quelque chose qui n'intéresse pas tous les anglicans, disons, en désaccord, par exemple, avec l'ordination des femmes. Il n'y a que les anglo-catholiques opposés à l'ordination des femmes que ça intéresse. Les évangéliques opposés, ils n'ont pas du tout envie de rejoindre la communion romaine. Indubitablement, pour certains, c'est quelque chose qu'ils vont effectivement vraiment considérer. Pour d'autres, je me demande quand même si ce n'est pas d'abord une manière de faire pression en disant « attention, si vous ne nous faites pas de place suffisante, eh bien, on va partir, on va bouder ». Il faut voir quand même que même chez les anglo-catholiques, je dirais les plus traditionnalistes, ce n'est pas parce qu'ils sont extrêmement ultra-traditionnalistes qu'ils ont le sentiment qu'ils vont se retrouver dans l'Église romaine. Je me souviens avoir parlé, après les premières ordinations de femmes en Angleterre en 1994, avec un prêtre anglo-catholique traditionnaliste qui se sentait perdu, qui me disait qu'il ne reconnaissait plus son Église. Mais ce n'est pas pour autant qu'il considérait devenir catholique romain. Je me souviens qu'il me disait, bon, je regarde l'Église catholique romaine et vraiment, ce n'est pas moi. Il revendiquait justement la liberté anglicane, la liberté d'expérimentation locale. Bien sûr, c'est justement cette liberté qui le mettait dans une telle situation, puisque c'est cette liberté qui permettait d'ordonner les femmes avant même qu'un consensus pan-anglican ait pleinement émergé. L'Église est faillible. Ça, c'est un héritage très fort de la Réforme, qui est toujours dans l'anglicanisme contemporain. L'Église est faillible, elle fait des erreurs. Mais au bout du compte, Dieu la relèvera.
Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi la question de Rome, la question de dépendre de l'autorité romaine ?
Je dirais que les deux sont liés, c'est-à-dire que la primauté de Pierre, telle qu'elle s'exprime et qu'elle est comprise depuis au moins la contre-réforme, je dirais, eh bien, c'est une primauté qui est inacceptable pour les anglicans, en particulier l'idée de cette juridiction universelle, cette centralisation excessive dans l'Église romaine, ça c'est le vrai problème. Point de vue anglican, pour recevoir, si on peut dire, cette primauté de Pierre, qui n'est pas quelque chose que les anglicans ne peuvent s'imaginer recevoir un jour. Mais il faudrait que la papauté donne un certain nombre de signes concrets, pratiques, transformation de ces pratiques, en particulier en adoptant un fonctionnement beaucoup plus collégial, en associant beaucoup plus les évêques et aussi les laïcs. Du point de vue anglican, le problème, c'est pas Rome en soi.
Est-ce qu'on est quand même d'accord qu'il y a quand même une volonté à la fois des catholiques et des anglicans de se rapprocher d'une unité ?
Mais bien sûr. Là encore, je parlais tout à l'heure de ce rêve anglican de rassemblement. C'est un rêve national, je dirais, au XVIe siècle. Et depuis au moins le XIXe siècle, je dirais, c'est un rêve œcuménique. D'ailleurs, le mouvement œcuménique doit énormément aux anglicans. Donc oui, bien sûr. Il y a un désir d'unité, de rassembler tous les chrétiens.